C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de Roland Garros et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjad Chélil. Salut Adjad.
Salut Thibaut, ça va ?
Ça va, ça va. Roland Garros, le rituel, on nous disait à l'instant dans le chat Twitch, le rituel Roland.
Eh oui, Roland Garros, c'est tous les étés, c'est cette petite saveur particulière du début d'été, tu vois, quand ça commence à être les beaux jours, la chaleur s'installe, et forcément, bah moi, ça me rappelle les années de révision du bac, par exemple, ou alors quand vraiment, tu sais que bah moi, c'est bientôt mon anniversaire aussi, donc tu vois, c'est toute une période de l'année qui a une saveur particulière, et je pense que c'est le cas pour tous les Français, parce que ça sent la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été, avec notamment bah aussi le Tour de France après qui arrive dans la foulée.
L'enchaînement voilà. Parfait derrière le Tour de France. Mais ce matin, les amis, on parle de tennis, on parle de Roland Garros et on va voir comment effectivement ce tournoi historique se transforme chaque année en véritable média, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, je suis allé jeter évidemment un coup d'œil sur les plateformes pour voir ce que donnait en lui-même l'organisation de l'événement Roland Garros sur Instagram. 2,5 millions d'abonnés pour Roland Garros, c'est énorme. C'est vraiment impressionnant.
Bah, il faut peut-être rappeler que Roland Garros, c'est un des quatre grands tournois hein, de l'année. Ça fait partie des tournois du Grand Chelem, donc c'est les plus importants de l'année du tennis mondial. Donc tout le monde à l'international suit ça. Forcément, en France, c'est le plus gros tournoi qui existe. Hein. Et puis c'est diffusé largement sur France Télévisions historiquement, et puis maintenant sur Amazon Prime, qui a rentré un petit peu dans le game de Roland Garros. L'an dernier, Amazon avait annoncé 3 millions de téléspectateurs, par exemple, devant Nadal Djokovic en demi-finale. Donc, c'est énorme. Et puis, côté France Télévisions, sur le tournoi, ils annoncent 42 millions de téléspectateurs cumulés. Donc, là aussi, des chiffres qui sont impressionnants, avec un pic à 6,4 millions de personnes en finale de téléspectateurs sur France Télé. Hein. Et puis après, il y a toutes les télés du monde qui diffusent ça en plus à côté.
Ouais, c'est énorme. Et Roland Garros, bah, ça se consomme évidemment à la télé, peut-être pour les chanceux directement dans les gradins. Et pour les autres, et bah, sur les réseaux sociaux, ce qui est notre cas. Et donc sur Instagram, ce sont 2,5 millions de personnes qui suivent ce tournoi. Je le disais, c'est vraiment impressionnant le dispositif social media du tournoi Roland Garros. Le compte publie une quarantaine de posts chaque jour du tournoi. 40 posts, hein, je dis bien des posts.
L'algorithme, ils en ont rien à faire.
Et en plus, il y a une quinzaine de stories à peu près quotidiennes. C'est faramineux, donc c'est un véritable média. Tu peux suivre quasiment une journée complète de Roland Garros sur le compte Instagram. Et niveau contenu, eh bien, on trouve une quantité phénoménale de vidéos reels, ça c'est impressionnant. Certains sont des extraits de captations télé, il doit y avoir un accord quelque part avec France Télé qui produit les images et le compte Instagram officiel, mais aussi beaucoup de backstage, hein, et ça c'est assez kiffant quand t'es fan de tennis, de backstage dans les couloirs de Roland Garros avec les joueuses, joueurs qui sont en train de se concentrer avant leur match, de s'échauffer en courant dans les allées. C'est assez, assez marrant. Et il y a un truc moi que j'ai trouvé très intéressant dans le dispositif social media du tournoi Roland Garros, c'est la manière dont ils intègrent leurs partenaires, puisque les partenaires sont intégrés directement à l'éditorial avec des séquences rendez-vous sponsorisées. Vous avez par exemple l'instant détente du jour sponsorisé par les jardins Hespérides, voilà, qui est partenaire du compte. Tu vas avoir le post shot of the day, donc le beau mouvement du jour.
Au final, c'est un petit peu comme on pouvait avoir à la télévision.
Exactement.
Tu sais, avec des petits spots comme ça au milieu de la journée qui est proposé par EDF GDF. Boom, avec
c'est exactement ça. Donc là c'est Oppo qui sponsorise le shot of the day. Et puis tu as les récaps en reels de la journée avec les best moments of the day qui là sont sponsorisés par Emirates. Je trouve c'est très intéressant. J'imagine que c'est évidemment commercialisé hein, ces postes là auprès des sponsors. Très astucieux de la part de Roland Garros.
De médiatisation, c'est très très malin de faire comme ça. Après, pour vous donner un ordre d'idée, c'est des reels qui dépassent les 200 000, 300 000, ça va jusqu'à 500 000 vues là pendant le tournoi. Donc forcément, pour une marque, c'est intéressant de se positionner sur ce type de contenu. Quoi.
Je suis allé regarder aussi du côté de TikTok. Alors là, c'est un petit peu plus modeste, mais quand même 931 000 abonnés sur TikTok pour Roland Garros et des vidéos qui ont généré en total 14 millions de likes. Donc il y a vraiment du monde qui suit Roland Garros aussi sur TikTok. Et là, on y trouve surtout des highlights, des meilleures actions sur le terrain. Ils ont focus, on va dire, leur ligne éditoriale vraiment vraiment autour des best shots, donc t'as que des highlights, on va dire, des matchs précédents. C'est vraiment le contenu qui a l'air de fonctionner le mieux, avec de nombre de vues qui sont impressionnants.
Exactement, écoute, en même temps, TikTok, ça doit être un petit peu plus récent pour le tournoi, donc normal qu'ils soient un petit peu en retard par rapport à ce qu'ils font sur Instagram. Est-ce que tu as entendu parler, Thibaut, de l'application Bodyguard ?
Eh ben non, mais tu m'en as parlé juste avant qu'on enregistre, oui. Et je trouve ça fascinant.
Assez incroyable. C'est le tournoi qui a mis ça en place cette année, hein, Roland-Garros, qui s'associe à l'application Bodyguard et qui révolutionne un petit peu le monde de la modération. C'est assez étonnant. Cette année, Roland-Garros est arrivé avec un nouvel outil pour protéger les joueurs. Il y a énormément de pression sur les joueurs, hein, on le sait, notamment dans le tennis, avec le développement des paris sportifs. Hein, c'est de plus en plus présent. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, beaucoup de messages parfois haineux et notamment à l'égard de très jeunes joueurs, hein. Parfois ils ont 16 ans, 17 ans et ils reçoivent des menaces de mort quand ils perdent un match parce qu'ils font perdre des paris à des parieurs. Donc il y a tout ce nouveau type de harcèlement autour du tennis qui est un peu apparu ces dernières années, et notamment pour protéger la santé mentale des joueurs sur le cyberharcèlement, Roland-Garros s'associe à cette application Bodyguard qui filtre les commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Alors comment ça marche ? En fait, le joueur va tout simplement flasher un QR code sur son téléphone, ce qui va permettre à l'application qu'il aura installée au préalable, Bodyguard, d'accéder à tous ses réseaux sociaux. Et c'est l'application qui va faire le reste, en fait. Ça va se pluguer sur son Instagram, Facebook, etc. Ça va analyser, ça va faire de la détection de mots, en fait, et ça va analyser le contexte de la phrase dans laquelle intervient ce mot pour déterminer si c'est de l'insulte, haineuse, raciale, etc. ou c'est une phrase normale. Typiquement, le boss de Bodyguard nous donne un exemple. L'application est capable de, par exemple, voir le mot peau. Et le mot peau ne pose aucun problème dans un contexte normal. Mais dans l'expression je vais te faire la peau, par exemple, et ben là, il est capable d'analyser le fait que c'est une phrase haineuse et de la supprimer. À la base, c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est une application développée avec une intelligence artificielle qui vient détecter ces messages, qui est éduquée. Cette intelligence artificielle, elle est éduquée par les développeurs de l'application, et ça permet d'analyser vraiment ce qui est le contenu et ce qui est dit. Autre exemple, par exemple, que j'ai découvert. Écoutez, je ne savais pas que ça existait chez nos amis un petit peu racistes. En tout cas, les utilisateurs haineux, pour échapper aux modérations classiques, changent des mots. Et par exemple, là, l'exemple qui était donné, c'est que à la place du mot arabe, ils vont utiliser l'emoji arbre, puisque ça ressemble arbre arabe, et ils mettent l'emoji.
Ok, d'accord, pour, ça va loin.
Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est justement pour éviter que les systèmes de modération classiques que nous on utilise, par exemple chez Supernative, vous savez, on rend tout un tas de mots clés pour supprimer directement certains messages parce qu'on sait que c'est
faire de la modération a priori, c'est-à-dire avant
c'est
la publication,
juste quand ça sort, ouais. Quoi. Et bah là, l'intelligence artificielle a capté cette petite nuance que les personnes utilisaient, et du coup ça a permis de supprimer tous les messages comme ça. Retour des joueurs, en tout cas les joueurs, eux, sont vraiment très très agréablement surpris par l'application, de ceux qui l'ont testé cette année, parce que ils nous disent enfin, ça parle tennis et pas d'autre chose sur mes réseaux sociaux, et c'est vraiment agréable. Et puis il y a des coachs qui évoquent du coup aussi la protection et la sécurité de la santé mentale des joueurs qui est vraiment mieux protégée avec cette application. Donc à voir, mais là je pense que ça a un écho aussi pour tous nos métiers, parce que ce type d'application va sûrement se développer après plus largement. Aujourd'hui c'est réservé vraiment à une minorité comme ça, mais plus largement même nous sur des comptes de marque, quoi.
Ouais, c'est fascinant. Je vois que bodyguard.ai, hein, si vous voulez jeter un petit coup d'œil à cette application, qui est aussi partenaire de la LFP, Ligue de Football Professionnel. Donc on voit très bien effectivement quel canaux là ils peuvent adresser directement auprès des joueurs qui sont quand même dans le viseur bien souvent et des sujets de modération. Super intéressant. Je ne connaissais pas. Je suis assez bluffé. Ça donne envie de tester cette
grave,
techno, quoi.
Grave. J'ai très envie aussi de tester.
Allez, moi je voulais te parler de Lacoste, parce que comment
classique.
Ne pas parler comment parler de Roland Garros sans parler de Lacoste, hein. Lacoste qui est partenaire
bien
de Roland Garros
sûr.
Depuis 1971. La relation entre la marque et le tournoi, elle est vraiment historique. Et pour ça, il faut remonter un peu dans le temps. En 1927, René Lacoste gagne la Coupe Davis aux États-Unis.
Oui.
De retour en France, s'ensuit la construction du stade de Roland-Garros pour accueillir, on va dire,
les internationaux de France.
Les internationaux de France et ensuite la revanche USA-France de la Coupe Davis. Quelques années plus tard, en 1933, René Lacoste, qui est donc retraité, crée la chemise Lacoste. Il invente du coup tout un nouveau vestiaire dédié au tennis avec son classique, la chemise blanche en jersey, petit piqué, à manches courtes et au col maille, etc., qui va devenir le fameux polo Lacoste.
Sachant qu'à l'époque, les joueurs tennis ont l'obligation de s'habiller en blanc. Il y a un style vestimentaire vraiment très codifié, qui est encore le cas, par exemple, aujourd'hui à Wimbledon, en Angleterre, dans le tournoi du Grand Chelem anglais à Wimbledon. On est obligé d'être habillé en blanc pour pouvoir jouer le tournoi.
Et ça fait donc 42 ans que la marque Lacoste, elle est partenaire du tournoi de Roland-Garros, ce qui est quand même dingue comme durée de partenariat. Alors du coup, je suis allé forcément jeter un coup d'œil sur Lacoste sur Instagram. 6,9 millions de followers pour cette marque. Et là, c'est intéressant parce que cette marque, cette année, elle fête aussi ses 90 ans. Et c'est bluffant de constater à quel point son image, elle est toujours intacte et plus fraîche que jamais. Sur son compte Instagram, la marque, elle souligne par exemple son partenariat avec les athlètes via un hashtag qui s'appelle Team Lacoste. Et à ce titre, c'est sympa aussi ce qu'ils font, c'est que tous les posts qui impliquent des athlètes sont habilement diffusés en post collab. Et on le voit, ce post collab, la force qu'il peut avoir quand je suis une marque comme Lacoste et qu'il y a Djokovic qui repartage mon post collab, puisque dans ce cas-là, ça t'offre des portées organiques monumentales, complètement folles. Très très bon outil, hein, le post collab. Là, si vous voulez voir à l'œuvre, allez voir ce que fait Lacoste. Et pour creuser plus loin, tennis mis à part, Lacoste fête aussi cette année ses 90 ans, 90e anniversaire de la marque. Et à ce titre, elle en a profité pour se réconcilier avec ses communautés. Et je trouve ça très très intéressant. Quand je dis communauté, plutôt se réconcilier avec celles et ceux qui, pendant longtemps, elle a évité. Elle a fui comme la peste, hein, je pense, évidemment, comme tu l'as
arsenic.
Dit. Oui, aux cultures issues des... aux communautés issues des cultures urbaines, des quartiers populaires, des cités, hein, faut dire les choses. Et pour ses 90 ans, eh bien, la marque, elle semble vouloir embrasser toutes les cultures et elle n'hésite pas à mettre en visuel des looks très cité, quoi, très urbain et très assumé, casquette Lacoste, jogging Lacoste, Nike TN.
C'est le célèbre groupe de rap Arsenic qui à l'époque s'habillait que en Lacoste dans les années 90, vraiment dans tous leurs clips, dans tous leurs visuels, dans toutes leurs pochettes d'albums, mais qui était boycotté par la marque qui ne voulait pas en parler et qui aujourd'hui, tu as raison, pour l'anniversaire, en a fait, Lacoste est revenu là-dessus puisqu'en a fait son égérie du coup.
Et
les
deux c'est exactement
rappeurs.
Ça. Je me suis marré quand j'ai vu ça parce que je me souviens dans les années 90. Ce groupe Arsenic défrayait la chronique, groupe qui a cartonné et qui était 100% habillé en Lacoste. Et à l'époque, c'était choquant parce que Lacoste, c'était une marque de
bourgeois.
Papy, de mamie, de bourgeois qui fuyait vraiment cette icône très cité, très urbaine. Il y avait une incompréhension de ce côté-là. Et Arsenic s'affichait 100% Lacoste. Il y avait ces folles rumeurs comme quoi ils étaient sponsorisés, ce qui n'était pas du tout le cas. Et la marque Lacoste a même à un moment donné réfléchi à faire interdire le groupe de porter ses produits, donc c'est quand même assez ça va assez loin. Et aujourd'hui, eh bien pour les 90 ans, c'est la réconciliation, puisqu'on trouve sur le compte Instagram de Lacoste une vidéo magnifique où on voit eh bien les deux Arsenic habillés encore une fois en Lacoste avec la même pose que sur l'album de l'époque, dans une interview où il y a une espèce de sociologue de la marque qui raconte comment un groupe comme Arsenic a façonné aussi l'image de la marque telle qu'on la connaît aujourd'hui.
On a vu plus tard des rappeurs déjà devenir un peu égérie, mais c'est vrai que là c'est une belle revanche de la part d'Arsenic et du rap. Il y a aussi une belle interview que j'ai vue de Mouloud Achour, si vous voulez la regarder, avec Arsenic pour l'anniversaire de la marque Lacoste justement, donc ça c'est cool.
Allez, si on revenait un peu au tennis là c'est intéressant de regarder aussi ce qui se passe du côté des joueurs. Donc là je disais Lacoste partenaire, donc un partenariat très poussé avec la star, hein, Djokovic qui cette année fout le bordel, beaucoup de bruit et je dirais beaucoup de pollution, on va dire, autour du tournoi sportif avec de la politique qui est venue s'immiscer.
Bah, Djokovic est l'enfant terrible hein, du tennis mondial. Et on peut comprendre parce que ça vient aussi de sa construction en tant que joueur. Il s'est construit dans l'ombre hein, de deux monstres de l'histoire du tennis que sont Rafael Nadal et Roger Federer, qui sont arrivés un petit peu avant lui sur le circuit du tennis mondial. Et malgré bah, un palmarès XXL pour le Serbe, il a jamais été hyper apprécié par les publics en général, qui l'ont toujours plutôt sifflé et pris en grippe face à Federer ou Nadal. Donc,
il est un peu plus slave, un peu moins.
Il s'est un peu construit comme ça en opposition, tu sais. Oui. Et du coup, bah, il a déjà fait beaucoup parler de lui. Vous en avez forcément entendu parler pendant le Covid, hein, parce qu'il a refusé de se faire vacciner lui pendant le Covid. Il est ultra attentif à tout ce qu'il met dans son corps. Il est végétarien, il fait gaffe à tout ce qu'il mange et il disait, bah, moi, le vaccin, je sais pas ce qu'il y a dedans, je n'en veux pas. Donc, il est passé à côté de plus grands tournois mondiaux. Hein. Pour ça, il a pas pu faire l'Open d'Australie, qui est un des plus grands tournois au monde, l'US Open. Il a fait aucun tournoi américain. Donc ça lui a vraiment coûté, il est allé au bout de ses idées et c'est un peu un jusque-boutiste, hein. C'est-à-dire que Djokovic, quand il a une idée en tête, vous n'allez pas le faire changer. Et en ce moment, bah, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si, mais qu'autour du Kosovo, il y a pas mal de tensions, en tout cas entre la Serbie et le Kosovo, qui est un État aujourd'hui semi-indépendant, puisque sous contrôle de l'ONU et de l'OTAN. Et Djokovic, à la fin de son premier tour, tranquillement, au moment d'aller signer la caméra sur le bord du terrain parce qu'il avait gagné le match, et c'est un peu la tradition, hein, le vainqueur vient signer un autographe sur la caméra.
En général, il met un petit cœur avec un petit love dedans.
Oui, c'est ça, voilà, c'est un petit message d'amour.
Love you, Roland Garros.
Et bah, lui, il a écrit le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie, stop à la violence. Un message qui, forcément, il l'a écrit en cyrillique en plus, hein, directement. C'est calculé, hein, c'est pas fait comme ça, juste sur l'instant, c'est assez malin. Mais forcément, ça a lancé une grosse polémique sur cette position politique publique sur l'indépendance du Kosovo. Et d'ailleurs, les messages politiques sont interdits dans le tournoi à la base. Hein. C'est complètement interdit de parler de politique ou de faire passer des messages comme ça. Donc ça a posé un gros problème à Roland Garros parce que comment tu veux interdire un des plus grands joueurs de tous les temps et du tournoi. Donc bon, il a été un petit peu... on lui a tapé un peu sur les doigts, mais il s'en est sorti. En tout cas, ça a fait un peu le tour des réseaux.
Il faut quand même préciser que Djokovic, hein, pour se rendre compte, hein, 12,7 millions de followers sur Instagram, c'est plus que le tournoi en lui-même. Lui-même, c'est une caisse de résonance monstrueuse. Hein,
C'est une star. Et puis, il y a eu un deuxième petit bad buzz comme ça. Cette année, c'était un peu l'année des petits bad buzz politiques, mais forcément, bah, la situation géopolitique mondiale, parfois, ça rejaillit dans le sport. Hein, on le retrouve aussi. Et c'est là le conflit ukrainien qui a un petit peu ressorti avec la Biélorusse Sabalenka qui est venue à la fin du match pour serrer la main de son adversaire, l'ukrainienne Svitolina, qui est la femme de Gaël Monfils, hein, donc qui est assez connue en France et qui est un peu la chouchoute du public français cette année. Et l'ukrainienne a refusé d'aller lui serrer la main, justement, puisque la Biélorussie participe au combat face à l'Ukraine. Donc ça a pareil un petit peu fait le buzz et la joueuse biélorusse s'est même exprimée sur le sujet après en précisant qu'elle soutenait pas la guerre ni Loukachenko son président. Donc tu vois, ça prend quand même une caisse de résonance assez importante, quoi.
Ouais, c'est compliqué tout ça. Ce qu'il y a de fou, je trouve, il faudrait faire une analyse plus poussée, c'est aller jeter un coup d'œil aux comptes réseaux sociaux de ces sportifs, de ces athlètes la modération a dû être compliquée. Puis voir aussi à quelle fréquence le drapeau de leur pays apparaît. Djokovic est impressionnant. Ouais. À chaque fois qu'il poste, t'as le drapeau de la Serbie en emoji dans son truc. C'est quand même...
La Serbie, c'est aussi très nationaliste.
Et voilà, c'est ce que j'allais dire. On est peut-être au-delà du patriotisme, mais c'est vrai que c'est gênant au milieu d'un tournoi qui prône des valeurs plutôt de rassemblement comme Roland Garros.
Écoutez, en tout cas, il y a beaucoup de choses à raconter sur un tournoi comme Roland-Garros, il se passe des choses.
Les amis, on serait très heureux de continuer à partager avec vous tout ça. Racontez-nous comment vous vivez le tournoi de Roland-Garros. Est-ce que vous l'avez regardé à la télé ou alors est-ce que vous le suivez sur les réseaux sociaux, hein? Ça se passe sur nos plateformes @supernotif, à peu près partout, là où vous êtes, nous y sommes.
Exactement, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, on est partout, sur Pinterest, venez en parler avec nous, on prolonge l'épisode. Sinon, on est tous les matins sur Twitch, hein, en direct, dès 9h, donc vous pouvez venir en parler aussi en live avec nous. Et sinon, bah écoutez, on vous attend pour le 1000e épisode, le 29 juin, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire en ligne.
Merci à vous tous, on vous souhaite un très très bon week-end, rendez-vous lundi. Salut tout le monde, ciao, bye bye.